Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la Vie Française. Libre Journal de la Vie Française dans lequel ce soir je vais vous faire part de mes coups de cœur, chers auditeurs. Mes coups de cœur de l'année, nous arrivons bientôt à l'été. Et je voulais partager avec vous mes coups de cœur culturels de l'année. Et pour cela, bah écoutez, j'ai le plaisir de commencer pour mon coup de cœur musical avec un artiste. Artiste ?
Ça me va.
Voilà, oui. Voilà. Artiste qui est Laurent Couson. Alors, déjà, bonsoir, cher Laurent.
Bonjour, Laurent, bonjour.
Alors, Laurent Couson, ça a été mon vrai coup de cœur, puisque, Laurent, j'ai été invité à venir par un ami qui est directeur de radio. Et qui m'avait parlé de vous en me disant qu'il vous adorait, etc. Et il m'a invité à une création. Moi, les créations, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être comme type de musique, etc.
Oui, vous aviez peur que ça soit de la musique très contemporaine, peu abstraite.
Exactement, ouais. Voilà. Donc, un peu trop contemporaine pour moi, dissonante. Et finalement, ce que j'ai entendu m'a émerveillé, sincèrement émerveillé, chers auditeurs. Ça a été vraiment pour moi une vraie révélation d'un talent. Vous avez su faire passer de l'émotion. On l'a gardé en tête pendant un bon moment après la soirée. C'était vraiment agréable et il y avait une vraie émotion qui passait. C'était vraiment joli.
Merci beaucoup. Ben écoutez, c'est quand on de la musique, c'est un tout de faire passer les émotions que j'ai voulu mettre. Et c'est pour ça que bon, je fais ce qu'on appelle en tant que compositeur un langage tonal, accessible. Mais c'est pas parce que j'ai pas de sympathie pour d'autres esthétiques. Mais moi, celle qui vient de mon cœur, c'est celle-là. Et puis j'ai aussi envie que la musique que je fais, le message que je fais passer, soit intelligible de tous. Donc, j'aime pas les espèces de créations pour les musiciens, quoi. Et c'est ce qui a été un peu la tendance dans la musique contemporaine, qui a été pas mal la première responsable de la fracture qu'il y a eu avec le public aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on entend dans le milieu de la musique classique création contemporaine, mais il y a beaucoup la réaction que vous venez d'avoir, c'est-à-dire de fuir en courant. Mm-hmm. Parce que pendant des années, ça a été cette dictature de quelque chose qui s'adresse uniquement à des professionnels, qui ne casse que des codes et qui n'est pas là pour véhiculer de l'émotion, mais simplement des espèces de prouesses techniques dont on se fiche finalement. La virtuosité, c'est intéressant à partir du moment où ça sert un propos, mais quand c'est quelque chose de gratuit et surtout d'obligatoire, ça devient une contrainte et qui fait fuir tout le monde.
Alors, chers auditeurs, vous allez me dire Laurent Couson, ça me dit quelque chose. Et oui, Laurent Couson, vous avez un très beau palmarès. Un CV qui ferait rêver plus d'un chef d'orchestre. Vous avez été chef, vous êtes d'ailleurs toujours, mais vous avez été chef d'orchestre, vous me disiez tout à l'heure, même en Chine.
Oui, en Asie, oui, en Chine, en Thaïlande.
Incroyable. Allez-y.
Où j'ai vécu pendant plusieurs années. Au Maroc, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Enfin voilà, bon, vous savez, la vie de chef d'orchestre, évidemment, c'est fait de voyage. On est invité. Puis c'est ce qui est très intéressant. Là, je suis très excité. Par exemple, j'ai une nouvelle aujourd'hui où je vais aller au mois d'août diriger un orchestre brésilien à Rio.
Et ça
me passionne parce
génial.
Que en fait j'aime c'est, vous l'avez vu dans l'œuvre que vous êtes venu voir, j'aime le croisement des cultures, quoi.
Oui.
Et ça m'excite évidemment beaucoup plus d'aller diriger un orchestre brésilien, d'aller me confronter à cette culture, de partager avec eux moi ce que je sais et qu'eux ils m'apprennent ce qu'ils savent aussi, que de faire avec par exemple un orchestre parisien que je connais très très bien, quoi. Voilà,
oui.
c'est l'avantage de notre métier, on voyage.
C'est une rencontre.
Une rencontre.
Ouais. Et une émotion nouvelle à chaque fois.
Oui, bien sûr.
Et
bien
ça sera où, à Rio ?
Ah, ça sera à Rio. Alors, c'est une initiative extraordinaire parce que c'est un orchestre qui a été créé avec des jeunes qui sont issus des favelas.
Ah, c'est une intelligence.
C'est beau. Et à qui on a donné, au lieu de donner des armes et de la cocaïne, on leur a donné un violon, une flûte.
Ouais.
Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est des jeunes qui s'épanouissent. L'orchestre est d'un très haut niveau. Là, ils viennent d'être invités par le pape à jouer au Vatican.
Oh.
Et là, je suis très honoré, en fait, qu'ils m'aient appelé parce que ça ça prouve que voilà ce que j'essaie de faire depuis des années, c'est-à-dire des ponts entre les cultures, des collaborations internationales, ça commence à avoir des résonances, voilà, même jusqu'au Brésil. Et je suis super heureux, ça date d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le partage ce soir.
Ah, c'est une très belle nouvelle, et très jolie. Et Laurent Couson, ça n'est pas que ça. Laurent Couson, ce sont les musiques de films,
oui.
d'un petit réalisateur qui s'appelle, je sais plus.
De Monsieur Lelouch, de Claude Lelouch.
Un certain Claude Lelouch, voilà.
Alors, on attaque notre 9e film ensemble là, déjà. Wow. Qui tourne à la rentrée, et on enregistre la musique qui sera d'ailleurs le thème de The Book of Life, puisque quand il est venu assister à la création, comme il vient toujours à tous mes concerts, il m'a dit cherche pas la musique du film, on l'a, c'est celle-là. Donc là j'en fais une adaptation spéciale pour le film, on l'enregistre début septembre, il tourne son film après, puis on découvrira tous ensemble ce film l'année prochaine. Et ça fait maintenant 25 ans qu'on travaille ensemble,
extraordinaire,
avec passion, avec amitié, avec beaucoup de choses. Enfin, j'aime beaucoup cet homme, sa philosophie de vie, la manière dont il met la musique en scène. Je veux dire, c'est absolument unique. Il n'y a aucun réalisateur français qui donne une telle part à la musique. Donc, j'ai conscience d'être d'un privilégié, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Ouais. C'est extraordinaire. Il a eu le coup de cœur, il a dit « ça sera ça ».
Oui, oui. Il a dit ça sera ça parce que c'est vrai que c'est un film aussi qui va un peu résumer ce qu'il a appris de la vie. C'est maintenant un vieux monsieur, donc qui connaît, qui a tiré certaines leçons de la vie. Et il a dit ce dont tu as parlé dans ton œuvre me parle beaucoup, parce que ça va être le propos de mon film, d'essayer un petit peu de faire un résumé des différentes choses que j'ai appris des cultures, de mes voyages et des gens.
Oh, joli. Oui. Alors, Laurent Couson, vous avez une actualité qui est chargée, qui est remarquable, et notamment, vous avez prochainement le vendredi 26 juin, on peut encore réserver.
Oui, le prochain concert, c'est un des orchestres dont je suis le directeur musical actuellement, c'est l'orchestre Helios, que je retrouve, on est installé à l'église de la Madeleine, et à l'église de la Madeleine, on fait les grands requiems du répertoire, donc Verdi, Mozart, Fauré, les symphonies de Beethoven aussi, et là, le 26, c'est un requiem de Mozart, c'est magnifique, il y a 150 personnes sur scène, les chœurs, et dans ce cadre magnifique de la Madeleine. Voilà, donc je vous invite à venir nous voir, oui, bien sûr.
Ah, c'est superbe. Mmh. Alors, le programme, Ravel, Boléro,
oui.
Mozart, et, le Requiem.
Voilà, là, on peut pas faire mieux.
Oui. Donc, Église de la Madeleine, le 26 juin, chers auditeurs, 20h45. Nos auditeurs vont nous demander comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'inscrire.
On va sur le site de l'orchestre Helios, ou on va sur n'importe quel point de vente, Fnac, tous les points de vente de billets, vous trouverez le concert, sans
donc,
problème.
Donc, Helios, Helios, voilà. Chers auditeurs, vendredi 26 juin, Maurice Ravel, le Boléro, Mozart, le Requiem, par Laurent Couson. Mm. Voilà, chef d'orchestre avec le chœur éphémère de Paris.
Oui, exactement.
Et un certain nombre de très beaux solistes.
Oui.
Alors, ça, c'est le premier rendez-vous. Y en a-t-il d'autres, mon cher Laurent ?
Oui, The Book of Life fera sa première date en tournée dans le très beau festival international du Cap Ferré. C'est magique parce que on joue devant le bassin d'Arcachon. C'est dans des concerts en plein air qui réunissent jusqu'à 2-3 000 personnes à chaque fois. C'est des cadres absolument magiques. Je suis très heureux qu'on le fasse là pour la première date de tournée, puisqu'après The Book of Life sera en tournée l'année prochaine dans différents lieux et dans différents pays. Ça, c'est le 5 juillet. Donc, si vous êtes dans le coin du bassin d'Arcachon ou du Cap Ferré, venez voir ça, parce que c'est un festival extraordinaire sur 10 jours. Il n'y a que des grands artistes, des grands concerts. Puis quel cadre, quelle beauté. C'est comme un des plus beaux lieux de France.
Oui. Et alors là, programme ?
Le Book of Life.
Le Book of Life. Voilà, pendant plusieurs jours ou juste
non,
une journée ?
Une soirée.
Oui. Une soirée. Oui, d'accord. Alors, on pourrait peut-être parler un peu du Book of Life quand même. Voilà, son origine et le message, la philosophie derrière.
The Book of Life, donc le livre de la vie comme son nom l'indique, j'ai mis ça en anglais parce que j'ai toujours voulu que cette œuvre ait un destin un peu international, donc c'est pour ça que j'ai pris ce titre. Et puis aussi, le livre de la vie, voilà, c'est un symbole qu'on retrouve dans toutes les religions, et j'ai envie de dire dans toutes les spiritualités, justement aussi dans les cultures asiatiques, dans le bouddhisme, et aussi bien que dans le judaïsme, évidemment, très important le livre de la vie. C'est à chaque prière de Kippour, nous demandons à être réinscrits dans le livre de la vie. C'est le principe du pardon pour pouvoir recommencer. Voilà, et c'est présent dans le christianisme, c'est présent dans l'islam. Ce livre de la vie est un symbole absolument universel. Voilà, et c'est pour moi le symbole ultime aussi de tout ce qui est, je trouve, important dans le monde actuellement, c'est-à-dire l'éducation aussi. Voilà, cette éducation qui nous permet d'être tous inscrits dans le livre de la vie et d'y jouer sa partition. Donc symboliquement, j'ai pris 9 textes, qui sont 9 textes dans 9 langues différentes, qui vont des langues anciennes comme l'araméen jusqu'à l'anglais moderne. Et ça nous fait voyager, voilà, à travers les langues, les temps peut-être aussi. Et c'est une œuvre qui a vocation à être symbolique du rapprochement, quoi, oui, dont on a beaucoup besoin, du rapprochement des cultures. Essayer de rappeler que ce qui est intéressant dans l'autre, c'est sa différence, quoi.
C'est très joli. Et puis, c'est très amusant d'entendre. Moi, je me disais, l'araméen, on n'entend pas. Enfin,
on n'entend pas souvent.
On n'entend pas souvent, sinon qu'on puisse dire. Voilà, c'est ça apporte vraiment quelque chose. Ouais.
J'espère, en tout cas, vous voyez, c'est vrai que là, à la création, moi j'étais ému de voir au premier rang assis des personnes de confessions différentes, de pays différents, parfois de pays qu'on dit hostiles les uns aux autres, mais là, vous voyez, le temps de la musique, j'ai encore la naïveté de croire, vous disiez, vous êtes artiste, que l'art, c'est encore quelque chose qui peut rassembler les gens au lieu de les diviser comme on le voit trop souvent en ce moment, et comme on veut tous nous diviser. Il y a une espèce de mode de l'irréconciliable en ce moment, et moi je n'en peux plus de cette histoire d'irréconciliable, c'est-à-dire cette absence de dialogue, ce cloisonnement qui fait on est d'un camp ou on est d'un autre, on ne peut pas être des deux, on ne peut pas être au milieu, on ne peut pas... Je suis assez partisan aussi du juste milieu, voilà, c'est quelque chose de, je crois, qui est important, et assez de séparation entre les individus, voilà, qui le plus souvent ne veulent qu'une chose, c'est se parler.
Oui, oui. J'ai une personne étrangère ce matin qui me posait la question, mais ces violences que l'on a connues dernièrement à Paris, est-ce qu'il y a ça dans les autres pays? Non.
Non, non.
Non, il n'y a pas. Elle était surprise de ma réponse. Donc c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de choses, beaucoup de gens font tout pour diviser alors qu'il faut au contraire rassembler.
Ah oui, c'est terrible. Et il est mal vu d'essayer d'être juste, d'essayer d'être au milieu. On est d'un camp ou d'un autre. Oui. On est accusé. Alors, t'es où, toi? Mais je ne veux pas être d'un côté ou de l'autre. Oui. J'essaie de comprendre l'un et l'autre, et surtout de faire en sorte qu'ils se parlent.
Et la culture rassemble. C'est ce qui rassemble,
tout. N'importe qui peut venir au concert, au contraire, et j'ai envie de toucher le cœur de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de...
Et partager après son impression. Voilà.
Absolument.
Alors, votre concert, donc le premier, a eu lieu dans un lieu que je trouve... C'est sans doute la plus belle église de Paris.
Oui, à l'église Saint-Étienne-du-Mont. C'est la plus belle église de Paris. Puis quelle acoustique, c'est pas pour rien qu'il y a bon nombre de grands compositeurs qui ont choisi cette église pour faire leur création, parce que c'est une acoustique,
une sonorité
exceptionnelle, et elle est connue pour ça.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'il y a l'église a cette force de rassembler encore, quand même, aussi. Parce que j'ai jamais rencontré d'hostilité dans des lieux catholiques à recevoir des œuvres comme ça qui traitent à la fois de toutes les religions, de toutes les cultures. Bien au contraire, ça a toujours été apprécié, encouragé. Et voilà, on devrait aussi parfois écouter un peu ce message pour ce qu'il est.
Alors, je rappelle à nos auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de noter, donc, l'église de la Madeleine. Je vous donne rendez-vous, Église de la Madeleine, vendredi 26 juin à 20h45, pour écouter le Requiem, le Requiem de Mozart, c'est ça, et le Boléro de Ravel, dirigé par Laurent Couson. Et donc, Laurent, on pourra retrouver votre disque. Et moi, j'en fonctionne encore avec les disques. On pourra retrouver votre musique même sur Internet à partir de quand?
Tout le monde peut y aller. Allez sur les plateformes déjà. Vous pouvez écouter les nombreux
Bien
albums
sûr.
Qui sont déjà sortis. Et The Book of Life sortira, je pense, à la fin de l'année. Parce que là, on l'enregistre début septembre. Donc, le temps que ça soit prêt, certainement fin de l'année, début d'année prochaine. Mais en attendant, j'encourage tout le monde à aller écouter
Bien sûr, les autres œuvres.
Voilà. Ouais.
Et vous en êtes à votre combientième œuvre de création ?
Je ne saurais vraiment pas vous le dire.
Ouais.
J'en ai aucune idée. Vous savez, j'ai commencé à écrire de la musique à l'âge de 10 ans.
Mm-hmm. Ah oui, d'accord. Alors justement, ça c'était ma question. J'aime toujours connaître un peu le parcours de mes invités. Quel était votre parcours justement ?
Le parcours d'un musicien classique au conservatoire et avec tout de suite un pas de côté, puisque j'ai jamais été trop dans les circuits académiques, donc très vite je me suis intéressé au jazz, à la comédie musicale, à la chanson, et parallèlement à des études très classiques, et ben j'ai travaillé aussi dans ces milieux-là, et je pense que aujourd'hui ma musique peut-être en fait la synthèse. Et puis dans une musique de film, notamment avec Le Louge, ben c'est vrai que parfois j'ai une chansons à écrire, parfois j'ai une musique très symphonique, très lyrique, parfois c'est un big band de jazz. Donc,
mais à l'origine, qu'est-ce qui vous a donné envie de... Vous êtes né dans une famille de musiciens ?
Non, je ne suis pas du tout dans une famille de musiciens, mais disons que j'étais un enfant un peu compliqué à canaliser, disons, et que la musique a été une sorte de révélation, et que du jour où j'ai commencé à faire ça, j'ai plus voulu faire que ça. Et d'ailleurs, j'ai été un très très mauvais élève toute ma vie, parce que je voulais faire que de la musique et je n'allais pas
cours.
C'est
amusant, ça.
Ça a été ma raison de vivre très très jeune.
Et quel instrument ? Vous avez commencé par quel instrument ?
La trompette.
Ah, c'est amusant, ça.
Voilà, ouais.
Ah oui. Et après ?
Puis après, je me suis mis à jouer du piano, comme tous les compositeurs, parce que c'est indispensable.
C'est indispensable, voilà. Ouais. Ah, c'est amusant, début trompette, trompettiste.
Je suis un trompettiste, oui.
Ah, intéressant, parcours atypique pour un personnage atypique.
On commence tous par un instrument,
bien
évidemment.
Sûr.
Avant de... Maintenant, je ne joue plus, hein, je ne suis pas concertiste, puisque je suis vraiment orienté vers ma carrière de chef d'orchestre et de compositeur.
Alors, donc, ça, ce sont les débuts. Et donc, vous décidez quand de commencer ? Alors, vous commencez par créer ou vous commencez par diriger ?
Je commence par écrire. Par écrire.
Par écrire.
Oui, j'osais pas au départ diriger. Et puis, peu à peu, c'est rigolo parce que mes premières œuvres ont été dirigées par des chefs. Et puis, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, très vite, je me suis dit, je vais apprendre
ça.
À diriger, et j'ai envie de je vais le faire moi-même.
mais vos premières œuvres, elles ont été écrites pourtant très, très tôt.
Oui.
Et vous les avez réussi à les faire jouer par des chefs d'orchestre ?
Oui, mon premier disque notamment, ça a été enregistré. Il y avait un chef d'orchestre, il y avait tout ça. Et à chaque fois, j'étais derrière, je trépignais et j'avais envie de prendre la baguette. Donc, peu à peu, j'ai appris à le faire. Puis, je me suis aperçu aussi que le métier de chef d'orchestre sert beaucoup de celui de compositeur, parce que un chef d'orchestre, c'est pas seulement quelqu'un qui agite les bras, c'est quelqu'un qui fait une analyse très profonde de la partition qu'il dirige. Et il n'y a pas mieux que d'analyser une partition pour comprendre comment elle est écrite. Donc, ça sert mon métier. J'ai vraiment compris l'écriture des grands compositeurs en les dirigeant.
Ah, d'accord. Ouais. Et alors, donc, moi, je voudrais revenir sur cette histoire de création, d'écriture. Comment ça s'est passé ? Vous avez envoyé vos créations à des chefs d'orchestre ? Comment est-ce que vous avez percé ? Comment est-ce que vous êtes fait connaître ?
C'est ça, des interprètes au départ. Oui, on les envoie à des interprètes, on les envoie à des chefs d'orchestre. Mais la première fois que je me suis fait vraiment connaître, ça, c'est marrant parce que c'est à la radio, et c'est grâce à un personnage qui nous manque beaucoup dans le paysage audiovisuel, puisqu'il n'y a plus aucune émission qui parle de musique classique dans les radios généralistes, c'est Frédéric Lodéon. Et Frédéric Lodéon, c'était un personnage extraordinaire. Je ne sais pas si les gens se rappellent de lui, mais qui a eu une émission de musique classique pendant 25 ans sur France Inter, et qui était l'émission la plus écoutée de France Inter. Et aujourd'hui, quand on entend que France Inter veut plus entendre parler de mettre de la musique classique parce que soi-disant c'est clivant, parce que c'est pour les vieux, ou c'est pour les gens d'extrême droite aussi, j'ai entendu ça.
C'est
pas mal. La musique classique, on entend ces trucs invraisemblables. Voilà pourquoi je parle de l'Odéon, parce que c'est le premier qui a passé ma musique dans son émission, et à partir de là, j'ai commencé à travailler aussi un peu avec Radio France et à pouvoir avoir mes œuvres jouées.
Vous aviez quel âge ?
J'avais une vingtaine d'années.
Ah oui, donc le succès est arrivé quand même très vite.
On peut pas parler encore de succès, on parle de début.
Oui, de démarrage, de beau démarrage quand même.
De début.
Et après, comment est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer Claude Lelouch et à composer pour lui ?
J'ai rencontré Claude Lelouch parce que c'est une des personnes que j'admirais beaucoup. En fait, je l'ai rencontré par son compositeur historique, Francis Lay. Et Francis Lay, c'est une des seules portes qui se soit ouverte quand je suis venu à frapper à la porte des musiciens que j'admirais beaucoup. Et non seulement elle s'est ouverte, sa porte, mais il a dit ce jeune garçon voilà, a du talent, et il m'a présenté Claude Lelouch, et il a dit tu sais, je serai pas toujours là, et d'abord je voudrais que Laurent fasse la direction musicale de mes compositions, les arrangements, et puis ce sera certainement mon successeur. Et c'est ce qui s'est passé.
Ah, c'est joli, ça.
Oui, c'est joli, parce que il y a pas beaucoup de compositeurs qui font ça.
Incroyable.
Ouais.
Ah oui, vous avez pris sous son aile, comme on dit.
Oui, absolument.
Excellent. Ah, c'est très très joli et très touchant, cette histoire.
Oui, bien sûr, mais je pense beaucoup à lui.
Ouais. Waouh. Ah, très beau. Et donc, Claude Lelouch, ça a commencé, vous avez dit combien de films déjà ? Incroyable.
Là, on a fait le 9e film, parce que le premier film qu'on a fait ensemble, c'était en 2003. Donc, vous voyez, ça fait presque 25 ans déjà.
D'accord.
J'ai travaillé sur tous ces films depuis.
Top. Waouh. Et le prochain, vous avez dit, ça sera The Book of Life.
The Book of Life, ça sera la musique du film.
Ça sera la musique du film. Mais alors, Claude Lelouch, parfois, soit il reprend un air, soit il reprend la totalité. Il va reprendre la totalité. Non, peut-être pas la totalité.
Apparemment, il veut reprendre la totalité.
Waouh! C'est incroyable, ça.
Et puis, on travaille aussi sur quelques ajouts. Mais la particularité, de façon, avec Lelouch, c'est qu'on enregistre, il a toujours fait comme ça, hein. Il enregistre toujours les musiques avant le tournage des films, parce qu'après, il s'en sert sur le tournage, et ensuite, il monte son film sur la musique.
Ça, c'est génial.
Donc, généralement, c'est vrai qu'il ne touche pas une note, puisqu'il part du morceau pour construire l'image et pas l'inverse.
Ouais, c'est joli, ça. Donc, très joli.
C'est en ça que je dis que le compositeur est vraiment mis en valeur dans ça.
Ouais, ouais. Et alors, est-ce que vous pouvez nous divulguer un peu le thème du film, un peu ?
Non, absolument pas.
Vous savez ou pas ?
Il m'en voudrait beaucoup. Ben oui, bien sûr.
Ben bien sûr, voilà. Bon, alors, chers auditeurs, si vous voulez déjà vous mettre dans l'ambiance, on peut retrouver déjà des enregistrements ou pas sur Internet ?
Oui, il y en a un sur YouTube. Il y a la captation, notamment, que m'avait fait le Figaro, qu'on peut retrouver sur Internet, oui.
C'est parfait. Ah, c'est joli. Alors, je voudrais rappeler de nouveau vos prochains concerts. Donc, le prochain aura lieu donc le 26 juin à 20h45, le Requiem de Mozart et le Boléro de Ravel, donc sous votre direction, à l'église de la Madeleine à 20h45, et les autres.
Et voilà, The Book of Life, le 5 juillet au Festival du Cap-Ferré. Et pour les Parisiens qui veulent retrouver The Book of Life en concert, ça sera le 3 octobre prochain à l'église Saint-Étienne-du-Mont, Paris 5e. Voilà.
Ah, donc vous recommencez à l'église Saint-Étienne-du-Mont le 3 octobre.
Bah oui, c'était plein. Et les gens me le redemandent, alors on va le refaire.
Oui. Dans une église qui est absolument magnifique, voilà. Vous aurez le spectacle des yeux.
Exactement.
Et le spectacle des oreilles,
donc,
tous les sens au presse.
Rendez-vous le 3 octobre 2026 à Saint-Étienne-du-Mont.
Et ça, on peut déjà retrouver les billets ou pas ?
Oui.
Trouver les billets, pardon.
Je ne sais plus si on l'a déjà mis en vente, mais ça ne saurait tarder.
D'accord. Donc, oui. Et alors, pour pouvoir vous suivre, Laurent.
Suivez-moi suivez-moi sur les réseaux. Il faut me suivre sur Insta. Je suis un jeune. On me suit sur Insta, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que je poste mon actualité et c'est ça le mieux.
Alors, ça ne se fait pas de demander l'âge, mais c'est vrai que vous êtes jeune. Vous avez quel âge ?
Je ne suis pas si jeune que ça. J'ai 48 ans.
Oh, bah, écoutez, c'est très jeune déjà. Un beau parcours déjà à 48 ans, très beau parcours. Ouais. Vos projets ?
Les projets, nombreux, c'est vrai que là je suis très occupé avec cette œuvre parce que c'est l'actualité et on va l'enregistrer. Je suis très excité par cette collaboration avec cet orchestre brésilien parce qu'on va monter un très très beau projet que je viendrai vous en reparler bientôt. Voilà, et puis il y aura un nouvel album à la rentrée. Voilà, mais là je suis vraiment concentré sur ce film de Lelouch et sur cet enregistrement.
Mais vous dites qu'il y aura un nouvel album, c'est-à-dire que vous êtes en création en ce moment aussi ?
Exactement.
Vous n'arrêtez jamais.
Il ne faut jamais s'arrêter d'écrire, hein. Oui. C'est le principe.
Ouais. Alors, chers auditeurs, je vous invite vraiment à découvrir mon coup de cœur vraiment de l'année. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il va pouvoir y avoir d'autres années sans Laurent Couson. voilà. Venir d'abord l'écouter, le retrouver sur Internet, grâce à Internet, et venir écouter son talent de chef d'orchestre le vendredi 26 juin à 20h45.
Avec plaisir.
Pour finir, quels sont vos compositeurs préférés? Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué quand vous étiez jeune et qui vous marquent encore aujourd'hui?
C'est toujours le jeu des classements, c'est difficile. Mais
oui,
disons
bien sûr, ceux qui vous ont marqué, inspiré.
Ceux qui m'ont marqué. Je crois qu'on a ce goût en commun des compositeurs russes. J'adore Prokofiev, Shostakovich, Tchaïkovski. Après, j'aime beaucoup la personnalité de Schumann. Voilà, j'aime Gustav Mahler, j'aime Maurice Ravel, qu'est-ce que vous voulez, Leonard Bernstein. La liste est longue. Ce qui est extraordinaire avec la musique classique, c'est qu'il y a une telle variété de styles, telle variété de musique que de toute façon, on ne peut jamais s'ennuyer.
Ouais. Mais vous aimez les envoler, je vois.
Oui, plus ou moins. La musique de Schumann est une musique très intime, mais qui me bouleverse parce que c'est...
Oui, Schumann, c'est différent, en effet.
C'est la musique d'un homme... psychologiquement très fragile, dérangé aussi, même, on peut le dire.
Meurtri.
Et ça me bouleverse, en fait, cette musique. Peut-être pour ça aussi.
Voilà. Je vais réécouter Schumann maintenant, mais après ce que vous venez de me dire, d'une façon différente.
Oui, c'est vrai.
Extraordinaire. Merci beaucoup, Laurent Couson.
Merci.
Je répète une dernière fois, chers auditeurs, notez absolument, vendredi 26 juin, Laurent Couson, Mozart, le Requiem, Ravel, le Boléro. Et le 3 octobre, moi j'y serai, c'est certain.
Ah, c'est gentil.
Bah non, mais c'est pas gentil, c'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Le 3 octobre, The Book of Life dans la fameuse église de...
Saint-Étienne-du-Mont, Paris 5.
Donc Laurent Couson a retrouvé sur Internet avec un grand plaisir. Et je vous invite vraiment à écouter The Book of Life, vous verrez. J'ai été transporté.
Merci Laurent.
Merci beaucoup Laurent, à très bientôt. Et chers auditeurs, nous allons passer après un court extrait musical, nous allons passer à mon coup de cœur, vous voyez, j'en perds mes mots, coup de cœur littéraire. À tout de suite, merci. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française. Alors, après avoir reçu Laurent Couson, qui est toujours avec nous et qui est filmé, toujours. Voilà, attention Laurent.
Ah bon, bah, non mais...
Faut se tenir droit.
Voilà. Mieux filmé.
La transition est assez facile puisque je reçois Marina Yaloyan, il faut que je le prononce correctement. Marina, nous connaissons déjà depuis quelques temps et vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « La petite pianiste d'Erevan ». Marina, donc évidemment la transition elle est facile évidemment avec la musique classique de Laurent et d'ailleurs chers auditeurs vous aurez le plaisir de pouvoir écouter, vous êtes obligés de suivre toute l'émission puisque vous pourrez découvrir en fin d'émission un extrait de The Book of Life. Voilà, ah. Merci beaucoup Laurent pour ce joli cadeau. Alors, mon coup de cœur, donc je disais Marina Yaloyan. Moi, c'est toujours en fin d'émission que j'y arrive. Donc, vous avez décidé, vous êtes d'un univers qui est complètement différent.
Pas tout à fait, quand même.
Vous écrivez, journaliste.
Journalisme, mais j'ai écrit depuis toute jeune. Hein. J'ai écrit depuis l'âge de 10 ans.
Oui, mais bon, là, c'est quand même bigrement différent. C'est un ouvrage qui est quand même édité chez Albin Michel. Bravo.
Tout à fait, merci.
Un très bel éditeur. Et là, vous avez vraiment voulu raconter, c'est votre vie, c'est votre enfance, qu'on retrouve quand même toute cette sensibilité.
Bien sûr, on retrouve l'époque que j'ai connue intimement, parce que la chute de l'URSS,
c'est
quelque chose que j'ai traversé avec ma famille. Mais en effet, je pense que l'idée, c'était d'aller bien au-delà d'un simple récit de soi pour raconter ce qui se passait à travers 15 républiques à l'époque, parce que des millions de familles, en fait, traversaient cette chute. Et il y avait tout, vous savez, j'ai eu des retours des lecteurs qui me disaient, j'ai l'impression de vivre, de lire ce que j'ai vécu en étant petit ou petite, parce que c'était assez similaire, en fait. Il y avait des pénuries, il n'y avait pas d'électricité dans certains pays comme l'Arménie, la Géorgie. Il y avait la mafia. Du jour au lendemain, l'argent n'existait plus, le travail disparaissait. Et donc, des millions de familles traversaient cette chute. Et c'est ça, en fait, c'est cet abîme. Je voulais le transformer en roman de mémoire. Et pour la petite histoire, en fait, il a déjà existé, parce que je l'ai écrit... À 14 ans, il existait comme un poème épique, j'ai écrit en russe. Après, à 20 ans, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait La grand-mère. Alors, ça, c'était un peu les mêmes thématiques. Et maintenant, c'est devenu un roman en français, La petite pianiste d'Erevan.
Alors, c'est devenu un roman en français, certes, mais c'est quand même un peu votre parcours. Vous êtes pianiste aussi.
Je joue du piano. Je connais intimement cet univers, ce qui permet, bien sûr, d'écrire des passages poétique, où en effet on décrit par exemple le deuxième concerto de Rachmaninov ou la sonate pathétique qui à la fin, en fait, quand la petite fille elle passe le concours. Donc, si vous voulez, bien sûr, ça apporte une sensibilité toute particulière et la musique classique fait partie de ma vie, absolument.
Oui, mais à travers cet ouvrage, vous êtes projeté ou est-ce que c'est l'enfance que vous auriez peut-être envie de vivre ou que vous avez vécu en partie? Comment est-ce que vous...
Non, je l'ai vécu en partie, c'est-à-dire que, vous savez, du jour au lendemain, en Arménie, il n'y avait plus rien.
Oui.
Donc, on se réveillait et il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'institution. Et donc, on devait on devait survivre. Et justement, la musique dans ce roman devient ce fil qui permet... En fait, c'est la voie de survie, c'est la voie de transmission et aussi de mémoire. Parce qu'il y a, par exemple, dans le livre, un passage, on brûle les livres. Mm-hmm. Et donc, on brûle la mémoire, quelque part, on brûle la culture. Mais on ne peut pas vraiment brûler la musique. Et je pense que vous serez bien d'accord avec moi que c'est quelque chose qui tient malgré tout, je pense.
Et qu'est-ce qui vous a justement fait tenir quand vous êtes arrivé en France? Et après, vous êtes venu en France, vous avez fait de très belles études, vous avez une très belle carrière dont vous allez quand même nous parler. Je sais que vous êtes très discrète là-dessus, mais voilà. Mais qu'est-ce qui vous a fait tenir? Qu'est-ce qui vous a... Voilà.
Moi, c'était la littérature.
C'était la littérature, ouais.
Ouais, parce que moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, justement, quand il y avait toute cette période très compliquée, j'ai m'échappé tout à fait dans... moi, j'adorais les écrivains français, je lisais en russe à l'époque.
Ouais.
Après, j'adorais aussi les écrivains russes, évidemment. Et donc, je trouve la littérature, c'est une voie merveilleuse de vivre, de partir dans l'imagination. Et d'ailleurs, ce qu'elle fait, la petite fille, elle part dans l'imagination, elle part dans la musique, et grâce à ça, je pense qu'elle arrive à préserver en fait quelque chose par rapport à, par exemple, aux parents qui sont beaucoup, eux, beaucoup plus, je dirais, concernés par la survie matérielle. La petite fille, elle est plus concernée par la survie spirituelle.
Oui, donc finalement cet ouvrage, c'est quelque part, il a été commencé il y a longtemps et il se termine aujourd'hui en quelque sorte.
L'idée était là
Oui.
depuis longtemps, parce que il y a plusieurs thèmes là-dedans qui m'intéressent profondément. C'est la liberté, mais pas la liberté dans le sens contemporain du terme, dans le sens plus retrouver la liberté intérieure, quelque chose qui est peut-être plus profond que ce qu'on imagine aujourd'hui. Vous savez, la liberté là.
Oui.
Et puis aussi l'exil. Ça, c'est un autre thème qui m'intéresse
Oui, bah évidemment.
profondément. Et donc ces deux thèmes, je voulais vraiment les traiter, et je pense que je continuerai à les traiter à travers
Ah, quand même,
d'autres livres.
oui. Alors, vous êtes arrivé à quel âge en France?
J'avais 25 ans.
25 ans et vos études?
Les études, je les ai faites aux États-Unis.
Oui, vous pouvez
Ouais.
nous en parler quand même un peu?
Oui, bien sûr, j'ai fait Columbia en
Oui.
journalisme, et j'ai fait UCLA en littérature et écriture créative.
Alors donc vous êtes parti directement aux États-Unis de d'Erevan
Non, à Moscou
à
d'abord,
Moscou.
d'abord en Russie, et après de là-bas, ma famille, puisqu'il n'y avait plus rien,
Ben oui.
donc le pays s'écroulait, ma famille a pris la décision, mes parents ont pris la décision de tout quitter pour moi, pour mon avenir, et je pense que, encore une fois, dans ce livre, je souligne quelque part un petit peu cette génération sacrifiée, parce que, vous savez, il y a plusieurs générations qui traversent cette chute du monde. Dans le livre, il y a les grands-mères, il y a deux grands-mères, il y a une grand-mère qui est assez communiste, qui représente ses
C'est normal,
idéaux,
oui, bien sûr.
voilà,
Oui.
qu'elle voit disparaître et qui est, ici est très, elle y est très attachée. Il y a la grand-mère russe qui est plus l'enfance, les tartes aux pommes, la
Traditionnel,
chaleur
voilà.
traditionnelle. Et puis il y a les parents, et moi je dirais que pour les parents, c'est peut-être le plus difficile, parce qu'eux, ils vont jamais s'adapter au nouveau monde, parce qu'à 40-50 ans, c'est beaucoup plus difficile. Et donc c'est la génération sacrifiée des enfants de la perestroïka.
Ouais. Alors pourquoi être parti aux États-Unis?
Ah, mais tout simplement parce que à l'époque, mon père a eu la chance de gagner la carte verte, et il s'était dit,
Extraordinaire, oui.
voilà, à
Ouais.
l'époque, vous savez, tout le monde tentait
Et
sa chance.
vous parliez anglais quand vous êtes parti?
J'ai parlé déjà, oui, un
Ah
petit
oui.
peu, ouais.
Et en France, pourquoi être venu en France
Parce
après?
que la France, c'est mon pays d'amour.
Oh, bah c'est joli ça, c'est très joli.
Voilà,
Et
parce que moi, je n'aimais pas tellement les États-Unis, mais j'aimais toujours la France.
Ouais.
Et quand j'étais petite, je disais, je vivrais à Paris un jour et je serais écrivain. Et, mais c'est vrai que mes parents avaient très peur quand je disais ça, parce que mon père, il me regardait, il disait, t'es sûre de ça? Je disais, oui, absolument. Voilà.
Et vous parliez français?
Non,
Du
j'ai
tout?
appris le
Vous avez
français à
appris le...
l'université aux États-Unis.
Ah oui, avant de partir, vous avez quand même préparé votre terrain.
Oui, non, mais je serais jamais déménagée dans un pays où je parle pas de langue. La langue, c'est
Ouais.
ma voie d'expression, donc j'étais absolument, je devais parler le français, mais je l'ai appris très vite. Je l'ai appris en 10 mois, et puis je suis venue vivre en France. Voilà.
Et maintenant, vous travaillez, on peut peut-être le dire.
Je travaille au Journal du Parlement,
Ouais.
et où je suis directrice internationale, des affaires internationales, et je travaille aussi en tant que professeure à HEC. J'enseigne le débat, la géopolitique, et mais voilà. Mais ma voie de prédilection, c'est bien sûr la littérature.
Donc tout ça, en vérité, c'est plus un prétexte pour pouvoir écrire.
Absolument. Ça, vous savez, ça entoure quelque chose qui est, voilà, le centre
Ouais.
de vraiment de la vraie vocation.
Et alors donc cet ouvrage, il est peut-être plus important que les autres puisque il a été pensé il y a longtemps et qu'il est abouti aujourd'hui.
Vous savez, j'ai d'autres livres. Non, déjà, j'ai la suite aussi en tête. J'ai d'autres livres en tête. Je ne dirais pas que c'est plus important parce que chaque livre a sa
place.
Je parle
d'aujourd'hui, hein, je ne parle pas de, par rapport au futur.
Ah,
vous dites, j'ai d'autres
aujourd'hui,
livres en tête.
Oui, il y a, bien sûr, il y a énormément de choses qui ont été, encore une fois, les thèmes qui m'intéressent. Et puis, cette partie, peut-être, en effet, on peut... vous savez, je trouve que les ouvrages qui touchent le plus, c'est peut-être ceux qui sont nés d'une sincérité absolue. Et je pense que ce livre, il est né de cette sincérité-là. Il n'y a absolument pas d'effet, d'artifice, et c'est quelque chose de très vulnérable. Et je pense que les lecteurs le sentent. En tout cas, les retours que j'ai sont toujours très
émotionnels. Les critiques que j'ai lues étaient... C'était dans l'émotion.
Et d'ailleurs, le livre, il n'y est pas, c'est-à-dire le livre, il décrit les choses.
Mm-hmm.
On n'est pas dans le sentimentalisme, on n'est pas dans l'affect, etc. Mais je pense justement ça touche parce qu'on sent que il n'y a pas d'artifice, on ne cherche pas la belle phrase pour la belle phrase. On cherche la phrase vraie, on cherche le mot qui correspond à, en fait, qui est vrai, qui n'a pas cet effet juste pour dire oh là là, j'ai fait une jolie phrase, non, en fait.
Oui.
Ça doit correspondre au personnage, ça doit correspondre à son sentiment.
Vous n'avez pas voulu mettre d'artifice que finalement l'histoire elle-même est déjà suffisamment
lourde.
Elle
est suffisamment... vous savez, elle est lourde, mais il y a beaucoup de lumière parce que je pense justement cet enfant artiste qui est Verochka, elle apporte cette... Vous savez, d'ailleurs, Vera, ça veut dire foi en russe.
Mm-hmm.
Et donc, elle apporte beaucoup de lumière, en fait, à cette histoire et la musique aussi, évidemment. Cette petite fille, elle vraiment, dès que la réalité devient trop dure, en fait, elle part. Elle va dans l'imagination, dans les contes des fées,
ouais.
Dans la musique.
La
et la musique,
oui.
Pour elle, devient quelque chose qui la sauve de cette réalité. Et elle trouve la magie partout. Mmh. Et donc, de ce fait, je pense que c'est un œuvre assez... un ouvrage assez lumineux, en fin de compte.
Et est-ce que, justement, toute cette partie dont je parlais, qui est si lourde, est-ce que vos lecteurs en avaient conscience de ce qui se passait, de
non.
Ce que vous disiez tout à l'heure, de cette situation
Vous savez, justement, c'est assez intéressant, parce que j'ai eu le retour de plusieurs lecteurs français qui me disaient « Mais
c'est
on croyait
possible.
Que la perestroïka, c'était magnifique, et vous aviez enfin la glace, non, c'était les portes ouvertes, et tout était... » Mais vous savez, non, pas du tout, parce que moi, par exemple, le roman, ça se passe au cours d'une année. C'est assez d'ailleurs symbolique parce qu'un an, ce sont des saisons qui changent et c'est un peu le cycle. Et en vérité, cette période-là, sans électricité, avec les pénuries, etc., ça durait pendant un an.
Dix ans, presque.
C'est-à-dire que 10 ans plongés au Moyen-Âge, en plein 20e, 21e siècle, c'est quand même très, très difficile. Et ce n'était pas le seul pays. Et je pense que, vous savez, si on ramène ça à l'actualité... puisque c'est un petit peu aussi ce que je fais, si on veut comprendre les fractures d'aujourd'hui dans cette partie du monde, si on veut comprendre le comportement de la Russie et les pays voisins, il faut comprendre cette histoire-là.
Et vous l'avez connue pendant combien d'années, cette période-là ?
Quelques années. J'étais petite. Hein.
Oui,
j'étais
mais ça marque
petite,
quand même.
Ça marque quand même. Mais on est parti, moi j'avais 15 ans quand on est parti aux États-Unis.
Ah oui, donc vous l'avez quand même bien connu cette période.
Je l'ai bien connu et c'était
Alors,
compliqué.
La petite pianiste d'Erevan, elle s'échappe à travers le piano. Est-ce que vous déjà à l'époque, vous vous échappiez à travers l'écriture ou la lecture?
Tout à fait, l'écriture et la lecture,
les deux.
Ouais. Je lisais la lueur de bougie parce qu'il n'y avait pas d'électricité et j'écrivais aussi.
Ouais. Alors, j'ai un auditeur fidèle, qui est meilleur ouvrier de France, s'il vous plaît, qui m'écrit très instructif. Vous voyez, vous apprenez même... Je pense que il va être obligé de se procurer votre ouvrage, La petite pianiste d'Erevan, Marina Yoloyan. J'y arrive.
Bravo.
Il serait temps depuis le temps qu'on se connaît.
Ce n'est pas facile. Hein.
Voilà. Chez Albin Michel, roman, et qui raconte justement toute cette période en 1991, quand l'Union soviétique vacille, s'effondre complètement. Voilà. C'est un très bel ouvrage avec beaucoup de sensibilité, mais comme vous l'avez dit, cette sensibilité, elle n'est pas. elle n'est pas apportée, elle est naturelle.
Elle est naturelle, il y a beaucoup de poésie aussi, parce que, vous savez, c'est un peu, je pense, l'influence aussi des écrivains russes, et un peu le côté métaphysique. C'est-à-dire qu'on me dit que c'est un roman onirique. J'ai eu le retour des critiques en disant que c'est très, très onirique, métaphysique, etc. Je pense qu'il y a une partie de ça parce qu'en effet, on cherche, encore une fois, dépasser les événements et la petite fille, elle cherche quelque chose d'autre. Mais pas qu'elle d'ailleurs, aussi ses parents et aussi les grands-mères. Et donc,
oui, ce sont des intellectuels en plus, ses parents. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, entre guillemets.
Non, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, mais vous savez, quand la vie matérielle devient difficile, la mère, elle essaie quand même, parce que la mère, c'est la grande amoureuse. Hein, elle est amoureuse de la vie, elle est amoureuse de l'amour aussi. Et donc, elle essaie de s'extraire, en fait, de s'extraire à travers une passion, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour dans ce roman que tout le monde ignore, je ne sais pas pourquoi.
Faut pas dire.
Je ne veux pas gâcher l'histoire, il y a une histoire d'amour.
Oui.
Donc, il faut lire aussi pour ça, pour découvrir cette histoire. Et donc, voilà, chacun essaie s'extraire de ces conditions compliquées. La petite fille, je pense, c'est celle peut-être qui arrive le mieux à travers l'art et à travers...
c'est celle qui s'en sort le mieux, oui.
Parce qu'aussi, elle a une résilience toute particulière. Je pense, en étant enfant, on a un autre type de résilience. On a une vulnérabilité, certes, mais aussi une résilience.
Oui. Cette période que vous avez connue, vous, en Arménie, est-ce que... Aujourd'hui, vous êtes retournée en Arménie ?
Je suis retournée, il n'y a pas très longtemps.
Et pour vous, est-ce que la stabilité est vraiment actuelle en Arménie ?
C'est compliqué.
C'est compliqué,
c'est toujours compliqué.
Ouais,
vous savez, les pays ne se reconstruisent pas, des petits pays surtout, aussi vite. Sans ressources, ce n'est pas évident. Hein, donc... C'est toujours, ça reste un peu fragile, hein, je dirais, la situation là-bas. Et là encore, on est assez de revirement de l'Arménie vers l'Europe ou vers la Russie.
Et
donc,
oui.
On ne sait pas où on est. Donc, tout ça, ça complique évidemment un peu aussi la situation géopolitique. Encore une fois, n'est jamais simple dans cette partie du monde.
Vos auteurs, alors c'est la même question que j'avais posée à Laurent. Où est-ce que vous puisez votre inspiration, quels sont les auteurs qui vous ont marqué, russes, dont vous parliez ?
Alors, vous savez, moi, c'est très compliqué, parce que moi, j'ai eu trois, c'est-à-dire la littérature française, russe et anglophone.
Vous aviez accès, quand vous étiez petite, vous aviez accès à la littérature française ?
Mes parents avaient, pas comme mes parents d'ailleurs, c'était les bibliothèques faisaient partie des foyers et on avait les œuvres complètes de Balzac, de Victor Hugo, de George Sand, de Zola, de Stendhal. Donc tout ça, j'ai lu en étant petite, c'est-à-dire que les œuvres complètes. Vraiment, c'était une très belle connaissance de ça. Donc moi, je dirais... Alors, j'aime beaucoup... je vais partir des contemporains, mais j'aime beaucoup André Makine, parce qu'il y a cette rencontre amoureuse entre la France et la Russie, que j'aime beaucoup. Aussi les langues, la langue russe et la langue française. Il se questionne toujours sur son identité. Il y a cette poésie que je trouve sublime. Et après, dans le passé, bien sûr, Victor Hugo, parce qu'il y a cette puissance incroyable de... vous savez, ce sens social et aussi la puissance d'histoire que j'aime beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on retombe de plus en plus dans les récits très nombrilistes et on n'arrive pas vraiment à s'ouvrir vers quelque chose, vers un véritable regard sur l'époque. Et lui, il avait ça, donc ça m'est très précieux. Mais après, Bulgakov, j'aime beaucoup. Pour le côté métaphysique aussi, pour les manuscrits qui ne brûlent pas. pour l'histoire d'amour, évidemment, aussi. J'aime Pushkin pour la poésie qui est quasiment sans effort. On a l'impression que ça coule tout à fait naturellement. J'aime aussi Tchekhov pour la simplicité du quotidien qui révèle toujours autre chose. Je pense un petit peu ce qu'on retrouve dans le roman aussi, parce qu'il y a des scènes de la vie quotidienne, mais en vérité, chaque scène, elle porte un regard plus profond. Et les objets de la vie quotidienne deviennent souvent les symboles d'autre chose.
Mon cher Laurent, Marina nous explique donc que son échappatoire, en quelque sorte, c'était l'écriture. Quel était votre échappatoire quand vous étiez petit? Déjà d'écrire de la musique?
Oui, la musique, toujours.
Toujours.
Bah, c'est pour ça que je vais lire votre livre, parce que moi, ça doit ressembler à mon enfance, puisque je m'échappais toujours en écoutant de la musique. C'est ce qui me sortait de mon quotidien. Bah, je crois que c'est le propre de tous les passionnés. Hein.
Oui. Et les enfants artistes aussi, parce que quand on est enfant artiste, on est forcément, je trouve, un peu solitaire. Et on trouve cette communion ailleurs, et notamment dans votre cas, dans la musique.
Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage?
Le personnage de la petite fille. Qui m'a inspiré?
Perushka, oui.
Je voulais... créer une petite fille, en fait, et c'est ce qu'on me dit en tout cas, c'est que j'ai évité le piège, vous savez, d'un petit enfant mignon. Parce que c'est pas l'idée, en fait. Parce qu'un enfant qui vit ce genre d'événement, il n'est pas mignon, il n'a pas un langage d'enfant. C'est un enfant sérieux qui porte un regard très imaginatif sur le monde. Et c'est ce que je voulais faire. Et en tout cas, on m'a dit que la petite, elle est très attachante, donc paraît-il que les lecteurs s'y attachent.
Bah pour moi, la petite, c'est Marina petite.
Pas vraiment, Laurent.
Pas vraiment.
Tu vois,
bon,
je pense que Verochka, elle a son propre destin. Et je pense que comme tout auteur, on se projette un petit peu dans chacun de nos personnages. Et je dirais que, par exemple, la maman de Verochka, je m'y projette aussi parce que c'est une femme passionnée, et moi je suis quelqu'un de très passionné, qui déteste le quotidien, et ça c'est ce genre de femme. Et donc elle devient quelque part même une figure tragique, parce qu'elle ne peut pas s'extraire de son quotidien, parce qu'elle a les devoirs conjugaux, et aussi évidemment de survie qu'elle ne peut pas négliger pour une passion ou pour autre chose.
J'ai un auditeur qui nous demande, connaît-on là-bas le cinéma français comme Verneuil, qui est né en Arménie?
Vous voulez dire en
Arménie?
Oui, bien sûr.
Oui.
Moi, je vous dis, quand j'étais petite, mes références cinématographiques, c'était les films de Louis de Funès, de Pierre Richard, vous savez, tous ces films-là. On a de Bourville, on adorait tous ces films, ils étaient tous traduits en russe. Hein.
Et Verneuil aussi?
Oui, je crois, oui.
Bon. Et Claude Lelouch est connu là-bas?
Je crois. Oui, absolument.
Ouais. Je crois.
Hein? C'est vraiment des grands passionnés du cinéma français.
Hein. Oui, bien sûr.
Européen. Et d'ailleurs, italien aussi, avec Sofia Loren, avec Adriano Celentano. Ça, c'était tout ça. C'était mes références de petite fille.
Alors, est-ce que vous aimez Aram Khachaturian?
Ah oui, j'aime beaucoup Aram Khachaturian.
On parle pas assez de ce compositeur qui est un génie incroyable. Mais j'engage tout le monde à écouter cette musique. C'est d'une énergie, d'une sensualité, d'une... Et en même temps, c'est pas de la musique facile, mais c'est de la musique facile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce que j'aime comme écriture, ça. Voilà, c'est irrésistible. On joue pas assez cette musique.
Il est très connu, je pense, en dehors de...
Quel grand compositeur.
Merci pour lui.
Alors, donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, La petite pianiste d'Erevan, Marina Yaloyan.
Bravo.
Bon, il serait temps quand même, hein, après ces nombreuses années. Cet ouvrage, donc, il est amené à vivre et avoir une suite éventuellement?
Éventuellement. C'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup, puisque le personnage est attachant, j'aimerais continuer. Et puis, vous savez, le but de ce... Moi, j'avais conçu une trilogie au départ. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est écrire l'exil. Or là, c'est le début de l'exil, ce n'est pas vraiment l'exil. Oui. Et moi, je veux vraiment écrire la confrontation de cet enfant artiste avec le monde capitaliste. Ça m'intéresse.
Est-ce qu'il n'y a pas un message, finalement, à travers votre ouvrage, déjà? Il y a un message, quand même. Il y a un message, quand même, sur ce que vous avez vécu, sur ce qu'a vécu l'Arménie. Et le prochain message, ça serait justement l'expatriation.
Mais le message, c'est encore une fois, ce sont plutôt pas les messages, parce que vous savez, chaque lecteur, je pense, interprète à sa façon ce qu'il veut comprendre dans un roman. Mais il y a certainement des thèmes. Et le thème de l'exil et de la liberté intérieure sont quelque chose qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc ça, ce sont des thèmes que j'aimerais développer davantage potentiellement.
Aujourd'hui, vous vous sentez quoi ? Pleinement française, avec le cœur quand même en Arménie ?
Je me sens multiculturelle et très française,
oui.
Parce que c'est un pays qui m'est très proche et c'est un pays c'est-à-dire d'amour, de choix. Je me sens pleinement française, mais je peux changer si je parle avec un Américain ou un Russe. Je peux pleinement être russe ou pleinement américaine et je change de mentalité. Et je pense que c'est intéressant aussi en écriture parce que ça permet d'avoir, vous savez, ces univers aux accents différents et aux couleurs différentes. Parce que, en fin de compte, la littérature, elle est là pour faire voyager le lecteur. Et c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais sortir le lecteur un peu des choses habituelles et faire entrer dans d'autres mondes qu'il ne connaît peut-être pas.
Et est-ce que vous allez, dans votre prochain, vous avez déjà imaginé la suite ou...
C'est possible, parce que vous savez, je vous dis une chose, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la Russie des années 90, parce que c'était la mafia, c'était les premières McDonald's en marbre, parce qu'on considérait que c'était des restaurants de luxe, vu que ça venait des États-Unis. Et vous savez, cet décalage entre comment on imaginait l'Occident et ce que ça a été vraiment, c'est infiniment romanesque. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce décalage.
Oui, c'est très intéressant.
Incroyable. Ouais. Vous savez, les premiers restaurants absolument somptueux et les premières même... je me rappelle toujours du choc que j'ai eu déjà en arrivant de l'Arménie, parce que du pays qui était plongé dans le noir pendant des années, où il n'y avait plus rien, et tu arrives à Moscou, qui est baigné de lumière. Alors, ça ne veut pas dire que c'était luxueux, il y avait plein de problèmes, mais en tout cas, il y avait l'électricité, et on arrive dans le supermarché, le premier supermarché que j'ai jamais vu de ma vie. Et il y a des milliers de yaourts. Je n'ai jamais oublié ça parce que, vous savez, c'est quelque chose qui, pour un enfant qui sort de ces conditions de vie-là, c'est quelque chose de incroyable. On n'imagine pas que ça existe. Et donc, toutes ces sensations-là, je pense, sont très intéressantes et pourraient vraiment être intéressantes à décrire.
Pour moi, vous faites vraiment passer un message. Vous faites passer une prise de conscience par rapport à une période que... Nous, Européens, on ne connaît pas et qui est importante de connaître, comme vous l'avez dit, pour comprendre même la politique d'aujourd'hui.
Oui, absolument. Je pense que... Et encore une fois, c'était pas... Vous savez, c'était une grande partie du monde qui a vécu ça.
Bien sûr.
Vous savez,
bien
c'était
sûr.
Un énorme pays, bien l'URSS. Sûr. Donc, c'est le fait... Et tous ces pays-là, c'est pour ça que quand on dit Arménie, oui, l'Arménie, certes, mais c'était tous ces pays-là qui traversaient tous la même crise. Et... moi, je vous dis une chose. Moi, j'ai eu quelqu'un qui venait de l'Albanie et l'a vu. Alors, à l'époque, le roman s'appelait Les enfants de la perestroïka. Donc, c'était un peu différent. Ouais. Elle l'a vu, elle a dit, j'ai vu le titre. Et si vous voulez, il y a toujours une émotion incroyable. Pour les gens qui ont traversé ça, c'est dans le corps, c'est viscéral. C'est pas quelque chose qui est froid, qui est distant. Et je pense que c'est en effet intéressant d'explorer ça à travers... un roman pas tout à fait historique, mais un roman où, en fait, on explore le destin des hommes qui se trouvent dans ces conditions et on se dit, mais qu'est-ce qui reste quand tout change autour ?
Écoutez, c'est très joli, bravo.
Merci.
Marina Yaloyan, La petite pianiste d'Erevan, aux éditions Albin Michel. C'est un pays que vous connaissez, Laurent, l'Arménie, pas encore ?
Non, j'ai pas eu la chance
encore d'y aller. Oui.
Mais j'aime beaucoup les artistes arméniens. Et je ne parle pas seulement de Charles Aznavour.
Bien sûr.
J'ai eu la chance de travailler sur son dernier disque. Vous voyez, je m'entendais tellement bien avec lui. Et il est parti, je ne vais pas dire trop tôt, mais parce qu'il avait quand même un certain âge. Mais un grand artiste part toujours trop tôt. Et puis je pense à ma merveilleuse soprano, Mélodie Loulédjian. Qui a créé plusieurs de mes œuvres et qui est une voix, c'est une chanteuse qui me bouleverse. Ça doit peut-être venir aussi de ce pays, de ce beau
c'est
pays.
C'est très joli.
Vous avez joué en Russie ou...
Oui, j'ai joué en Russie, oui.
Ouais.
Oui.
Un public exigeant, il faut dire. C'est quand même, ils sont.
Mais c'est un public attachant.
Attachant aussi.
Voilà. Ouais, je n'ai que des bons souvenirs en Russie, moi. Vraiment.
C'était où, c'était à Bolchoï et
à Moscou et à Saint-Pétersbourg. J'ai même joué en Sibérie. à Omsk et à Irkoutsk.
Irkoutsk,
vous voyez, je me souviens qu'une fois, il faisait moins 34.
Wow. Oh, ouais.
Là, j'ai dit, par contre, ça, je vais peut-être pas aller faire un tour dehors.
Alors, vous savez,
moins 34, j'avais jamais vu ça.
Vous savez, c'est intéressant, parce que dans le livre, il y a un moment où, justement, les musiciens arrivent dans la salle pour répéter le deuxième concerto de Rachmaninov, et vu qu'il fait très, très froid dans la salle, parce qu'il n'y a pas de chauffage.
Il n'y a pas de chauffage, il n'y a plus de chauffage.
En fait, ils jouent avec les gants, et ils découpent les bouts pour pouvoir jouer. Donc, ça me...
Merci beaucoup, Marina Yaloyan, La petite pianiste d'Erevan, édition Albin Michel. Et nous nous retrouvons, chers auditeurs, pour la deuxième partie de notre émission après une courte pause musicale. Est-ce que, là, je me tourne vers la technique, est-ce que nous allons écouter The Book? Ah, oui, maintenant? Chouette, alors. The Book of Life. Merci.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Superbe, donc The Book of Life de Laurent Couson. J'ai le plaisir alors maintenant de vous faire part, chers auditeurs, bienvenue déjà pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Courtoisie, dans ce libre journal de la vie française, et j'ai le plaisir cette fois-ci de vous faire part de mon coup de cœur artistique. Et pour parler d'art, eh bien cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'art français, je vais vous parler d'art chinois, et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Xi Wen. C'est ça, je prononce correctement ?
Oui, c'est bien cela.
Voilà.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Xi Wen. Et donc, vous représentez vos parents, qui sont tous deux artistes incroyables. Wen Wu, c'est ça ?
Oui, exactement. Je
prononce toujours correctement, vous me corrigez. Hein. Et Wang Jifang.
Exact.
Voilà. Alors, vous avez, vous-même d'ailleurs, vous êtes artiste ou pas avec des parents comme ça ?
Oui, on est un petit peu obligés.
Vous êtes un peu beaucoup obligés. Donc, vous avez des parents qui sont arrivés en France il y a combien de temps ?
Il y a plus de 10 ans.
Il y a plus de 10 ans, ouais. Qui font des œuvres absolument magnifiques, des œuvres monumentales magnifiques. Je vous invite, chers auditeurs, à découvrir une exposition qui est en ce moment à la Sorbonne. Vous allez nous expliquer, nous donner les lieux. Et ben voilà, je vous passe la parole pour nous parler un petit peu de ce que font vos parents et de nous donner les informations pour nos auditeurs qui voudraient découvrir cette exposition qui est gratuite en plus.
Oui, gratuite.
Voilà, gratuite dans les jolis locaux de la Sorbonne.
Bonsoir chers auditeurs, donc, j'aimerais encore remercier Laurent pour cette invitation.
Je vous en prie.
Et donc effectivement, mes parents sont en train d'exposer à la Sorbonne, 12 places du Panthéon. Donc juste en face du Panthéon, dans l'enceinte de la Sorbonne.
Mm-hmm.
Il faut monter l'escalier B et vous pouvez accéder à cette magnifique exposition. Et donc justement, mes parents sont des grands artistes de renommée internationale. Mon père, il a des origines de la Mongolie,
mm-hmm.
descend de la famille royale de la Mongolie. Et ma mère, de vraiment une lignée chinoise très traditionnelle. Et donc, vous retrouvez aussi cet aspect aussi dans leurs œuvres.
Oui, c'est intéressant. C'est que je vous posais la question. C'est deux univers complètement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'un est bouddhiste, d'ailleurs, et l'autre est catholique.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est amusant.
Oui. Bouddhiste en conversion pour devenir catholique.
Voilà.
Oui. Ouais. Et justement, et aussi, donc cet aspect religieux est très important que vous pouvez retrouver dans les œuvres de ma mère parce qu'elle est très croyante et elle est catholique. Et tout comme mes deux petits frères et moi-même, mm-hmm. sommes baptisés en France. Et,
donc,
et c'est pour ça qu'on va bientôt... Enfin, je vais en parler après de la fresque monumentale de 15 mètres pour l'église de Ternier. Et donc, on retrouve cet aspect religieux, en fait, dans les peintures de ma mère, notamment que ce soit dans le sujet, c'est-à-dire ce qui est peint, donc Adam, Ève, aussi le jardin d'Éden, qu'on retrouve également chez mon père, sous différentes formes. Donc, chez ma mère, c'est à l'encre de Chine, sur de la soie, et chez mon père, c'est plutôt peinture à l'huile sur toile de lin. Et donc, effectivement, il y a cette aspiration forte de la croyance, mais tout à l'heure, je vous avais parlé de l'aspect matériel, mais aussi l'aspect spirituel, qu'en fait, on ne voit pas ipso facto directement, qui est visible, mais c'est au spectateur de ressentir cet aspect qui est, j'allais dire, presque métaphysique, transcendantal, des œuvres de ma mère et de mon père.
Votre mère, il y a une maîtrise de la technique qui est quand même
Exactement.
Absolument incroyable.
Oui.
Moi, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionné. Votre père, je dirais que c'est un univers, évidemment, complètement différent, où on joue beaucoup avec la lumière aussi.
Exactement.
Une harmonie dans les créations. Il y a du mouvement, mais un mouvement calme. Je dirais chez votre père qui est vraiment très joli et sont des grandes œuvres, donc c'est vraiment agréable à regarder.
Oui.
Ouais. Alors il y a des petits tableaux aussi, mais moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour les grandes œuvres.
Oui, effectivement.
Les grands tableaux. Ouais.
Justement, je voulais m'exprimer aussi devant les auditeurs,
oui.
pour vous souligner aussi votre sensibilité à l'art.
Merci.
Et aussi à ceux de mes parents parce que vous avez souligné des aspects fondamentaux de leur art, presque leur essence.
Merci.
Vous avez su saisir ça. Et justement, effectivement, chez ma mère, la technicité est très importante. Parce qu'en fait, mes parents ils sont diplômés de l'Académie centrale des beaux-arts de Pékin, donc la plus prestigieuse
oui,
de toute l'Asie.
Oui, plus glorieuse.
Et justement, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, l'amour né avec l'art.
Ouais, c'est joli.
Oui, c'est vraiment une sensibilité. Et c'est pour ça qu'ils exposent ensemble. Et ça fait justement cette combinaison qu'on parlera par la suite. Et donc, ma mère, c'est très technique. Et cette technicité, en fait, est en voie de disparition, puisque c'est une technique de la dynastie Song, qui se situe en 730 après Jésus-Christ. Et donc, c'est vraiment très ancien. Et vraiment, on va dire, c'est l'équivalent de la Renaissance, mais côté occidental. Et ma mère, elle a cette technicité. Et que mon père, justement, lui, comme vous l'avez dit, il y a justement de la clair-obscur, mais aussi forme de mouvement, de calme, etc. Dans cet aspect-là, c'est plutôt le Greco, peintre espagnol,
oui, bien
super
sûr.
Connu.
Oui, oui.
Et ça, vraiment, c'est une de ses, on va dire, modèles d'étudiant, quand il était étudiant aux Beaux-Arts. Et aussi chez Jacques-Louis David, qui est un peintre français.
Oui, bien sûr.
Et en fait, et lui, chez lui, on trouve aussi cet aspect assez théâtral, mm-hmm. et aussi cette forme de, vous voyez, triangle, vraiment de composition qui est très forte,
mm-hmm.
et combinée à la, j'allais dire, presque la sensualité, presque la clair-obscur de le Greco. Et mon père, en fait, lui, il ajoute tout cela et avec une touche orientale.
Très joli. Très bien. Vous nous rappelez un peu la durée de l'exposition ?
Oui. Alors, elle est commencée donc, à partir du vernissage.
Oui.
Et se termine le 15 juillet.
15 juillet. Oui, donc, exactement. Précipitez-vous pour aller voir cette exposition. Donc, à la Sorbonne, vous nous redonnez l'adresse et tout ?
12 place du Panthéon. Et il faut s'inscrire juste avant avec le QR code.
Ah, il faut s'inscrire avant ?
Oui, avec le nom.
Alors, comment est-ce que l'on peut s'inscrire ?
Alors, il y a un QR code que je pourrais vous envoyer, Il faut juste scanner et mettre nom, prénom, et c'est tout.
Alors, il faut que vous donniez des informations, parce que là, il faut que nos auditeurs puissent vous contacter. Donc, comment est-ce qu'ils font ?
Je peux vous donner mon numéro de téléphone ?
Bien sûr que vous pouvez.
Ah, super. 07 68 17 80 58.
Alors, on va le redonner très calmement. Voilà.
07
07
68
68
17
17
58.
58, voilà. Et une dernière fois pour nos auditeurs qui viendraient seulement de prendre stylo, donc il faut laisser un peu de temps.
Alors, 07 68 17 80 58.
Et donc, vous aurez Xiwen en ligne directement. Et alors, vous parliez donc d'une grande œuvre sur laquelle travaille votre père.
Oui, mes parents, tous les deux.
Les deux.
Plus mon père, quand même.
Oui.
Oui. Et justement, vous avez souligné aussi l'aspect que mes parents, ils peignent des très grandes œuvres.
Mm-hmm.
Puisqu'en fait, c'est leur spécialité. Chaque artiste a sa petite touche ou alors sa maîtrise.
Mm-hmm.
Et ceux de mes parents, en fait, c'est vraiment les grandes toiles. Puisqu'en fait, ils ont une vision de recul qui est assez surprenante chez les artistes, qu'on ne retrouve pas chez les autres. Et justement, et cette toile, c'est une fresque, une commande de l'église de Ternier, et que la mairie va nous aider à installer. Et je vous inviterai, Laurent, avec
un grand plaisir.
Pour l'inauguration de cette magnifique fresque, donc, qui fait 15 mètres de hauteur sur environ 6-7 mètres de largeur.
Alors, je rappelle le nom de vos parents, Wen Wu, W-E-N-W-U,
oui.
Pour ceux qui voudraient retrouver des informations sur Internet, et Wang Jifang, W-A-N-G. J-I-N-F-A-N-G.
Oui.
Voilà, Wen Wu et Wang Jifang. Merci beaucoup,
Xi
Wen. Vous nous rappelez une dernière fois votre numéro avant qu'on ne se quitte ?
07.
Oui.
68.
Oui.
17.
Oui.
80.
Oui.
58.
Merci beaucoup.
Oui,
je vous
merci
souhaite
beaucoup,
un vif succès pour cette
exposition. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci.
À bonne journée. Alors, enfin, bonne soirée. Donc, chers auditeurs, pour terminer sur la partie artistique, eh bien, évidemment, pour moi, vous le savez, je suis gourmet, voire gourmand, et évidemment, il fallait que je parle de gastronomie. Et alors, mon coup de cœur, cette fois-ci, c'est David Baroche. Bonsoir, David.
Bonsoir Laurent.
Alors David Baroche, moi je vous ai connu au début comme charcutier, puis après j'ai découvert que vous étiez restaurateur. J'avoue que moi le charcutier me plaît énormément. C'est d'abord la boutique, elle est top, elle est vraiment bien. Elle est à côté d'ailleurs d'un de nos auditeurs fidèles qui doit sans doute écouter. Et je voudrais que vous nous parliez d'abord un peu de cette charcuterie, même si votre restaurant existe depuis plus longtemps.
Oui, effectivement. Alors, cette charcuterie épicerie que nous avons avec Delphine, mon épouse,
oui.
Au 18 rue Cadet à Paris, dans le 9e arrondissement, on voulait une épicerie où on se sente bien et où on puisse manger sur place.
Oui.
Alors, c'est quelque chose dont les Anglo-Saxons ont l'habitude. Il existe bon nombre d'établissements où on peut faire ce genre de choses, mais sur Paris, un petit peu moins. Donc, l'idée de l'épicerie, c'est que tout est en libre service et on peut manger sur place ou emmener les plats que nous avons choisis.
Alors, l'aménagement est vraiment bien pensé. On a une grande table centrale, donc 18 rue Cadet, établissement Baroche. Qu'est-ce qu'il y a marqué en haut ? Baroche ?
C'est marqué Maison Baroche.
En fait, Maison Baroche.
C'est notre maison. Voilà, c'est un endroit aussi où nous avons un laboratoire de production sur place, puisque nous sommes fabricants, je tiens à le préciser,
ah oui, de
nous
tout.
Fabriquons une
tout.
Grande partie de nos produits,
ah ouais.
Sauf les produits secs, comme le saucisson sec, où là nous adossons à des artisans que nous connaissons depuis de nombreuses années. Voilà, ça c'est un exemple de produit que nous ne fabriquons pas, mais sinon nous fabriquons énormément sur place, et c'est également là où nous fabriquons aussi des produits pour aider notre brasserie dans le 8e arrondissement.
Oui, dont je vais parler après. Donc, voilà. Moi je voudrais que l'on termine déjà sur cette épicerie presque restaurant.
Gourmande.
Voilà,
oui.
Gourmande, absolument. Elle est, ce qui est très agréable aussi, c'est qu'elle est ouverte à 100%. C'est-à-dire que voilà, il y a pas de vitrine, la vitrine elle a disparu en été, il n'y a plus de vitrine, donc c'est très agréable, on rentre dedans, oui. En plus c'est joliment installé, et mais hyper gourmand, c'est-à-dire que vraiment vous avez, et vous réalisez, vous avez un travail de fou qui est fait derrière, il y a énormément de produits maison de très belle qualité, et je voudrais vraiment souligner cela, donc 18 rue
18 rue Cadet.
18 rue Cadet.
Effectivement, comme vous le précisiez, effectivement, la devanture est complètement ouverte. C'est ce qu'on voulait. Vous savez, moi, je suis issu du marché. Mes parents étaient charcutiers sur les marchés. Et j'ai toujours cette habitude où, en fait, il n'y a pas de porte entre le client et nous. Et donc, c'est ce que je voulais retrouver dans cet espace. Et vous avez raison de le préciser. Alors, c'est ouvert l'été, mais c'est aussi ouvert l'hiver.
Là, c'est ouvert parfois... l'hiver aussi. Waouh. Ah,
oui,
c'est extraordinaire.
C'est parfois un peu plus, mais quand il fait vraiment très froid, nous fermons. Mais
oui.
L'idée, c'est vraiment d'arriver comme dans un marché et de faire
ses sympa.
Courses.
Ouais, très sympathique.
Et on est avec le client.
Oui, alors, vous êtes avec le client, c'est-à-dire, je suis passé au total 3 fois, je crois, et je vous ai vu une autre fois, en effet, il y avait votre épouse et vous-même. Voilà, vous aimez le contact, on sent que, voilà, vous êtes, je ne vais pas dire à disposition des visiteurs, mais presque.
Mais en fait, vous savez, on l'a appelé Maison Baroche, c'est parce qu'on a le sentiment de recevoir les gens chez nous.
Oui.
C'est exactement ça. On propose des produits et les gens peuvent rester chez nous également, déjeuner, dîner, d'abord même l'après-midi, puisque nous sommes ouverts sans discontinu, et vous pouvez venir manger à n'importe quelle heure de la journée.
Mm-hmm. D'accord. Bah, écoutez, c'est merveilleux,
et donc,
ça.
Effectivement, c'est vraiment cet esprit famille, cet esprit maison. Vous avez pu remarquer, on a une jolie vaisselle également, et en tout cas je laisse à vos auditeurs le soin de découvrir cela.
Parfait. Alors maintenant on parle un peu de votre restaurant.
Oui, je crois que vous y étiez il y a peu.
Ah oui, non, oui, fort peu, oui, vous avez raison. Pour une soirée qui s'intitulait « Autour du cochon ».
Oui, c'est ça, on a fait une belle soirée autour du cochon hier soir, et c'était très 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 sympa, vraiment. Alors la brasserie, elle est différente. C'est d'abord le lieu et le quartier est différent, puisque nous sommes très proches des Champs-Élysées, puisque nous sommes à l'angle de la rue de Ponthieu et de la rue de la Boétie. Elle s'appelle Brasserie Baroche. Ça, c'est un établissement que nous avons depuis maintenant une quinzaine d'années. Et c'est vrai que c'est vrai que dans ce désert qui est parfois les Champs-Élysées pour pouvoir correctement manger, eh ben on nous sommes présents. On n'est pas seul, hein. Il y a d'autres très belles maisons, mais c'est vrai qu'on fabrique aussi, on fait du maison, et nos clients le sentent, puisque on a quand même, on est très très occupé. Voilà, on a du monde toute la journée.
Oui. Alors, évidemment, tout le monde doit avoir le réflexe comme moi de se dire, oh là là, brasserie près des Champs-Élysées égale touriste égale prix élevé.
C'est ça.
Et c'est exactement ce qui se passe chez vous, je plaisante, rassurez-vous. C'est pas du tout ça, chers auditeurs, c'est l'inverse.
C'est exactement ce qu'on a pas voulu faire parce que, effectivement, en fait, le quartier des Champs-Élysées, notamment le matin, puisque nous ouvrons à 7 heures pour les petits déjeuners. Hein. Wow. Donc le matin, c'est vrai qu'on accueille pas mal de touristes qui viennent visiter Paris, mais on a aussi, vous savez que le quartier des Champs-Élysées, c'est un gros quartier d'affaires. Il y a énormément de professions libérales. Et on ne peut pas, si on veut avoir effectivement une clientèle récurrente, on se doit de faire une jolie cuisine. Et d'abord, ça tombe bien parce que c'est mon métier. Mmh. D'abord, voilà, donc je ne sais pas faire autrement. Mmh.
Vous nous parlez un peu, par exemple... Oui, pardon. Allez-y.
Non, je vous en prie. Et c'est vrai qu'on travaille uniquement des produits frais, des produits maison, et voilà, à quelques mètres des Champs-Élysées.
Hier, j'ai mangé d'abord un pâté en croûte qui était absolument délicieux. Vous nous en parlez un peu ? Mais mettez l'eau à la bouche à nos auditeurs.
Hier, on vous a servi un excellent, c'est ce que les clients disent.
Oui, un
pâté croûte de cochon dans lequel on avait rajouté du foie gras
quand même. Ouais.
Et du canard, effectivement.
Ouais.
Mais avant ça, vous avez mangé aussi quelque chose d'assez étonnant.
Ah oui, ça, c'était très drôle. Absolument.
On aurait dit des...
Pour expliquer à nos auditeurs, tout le monde se disait, tiens, on dirait des chips chinoises, qu'est-ce que ça fait ici, avec du guacamole. Mais ce n'était pas ça.
Et non, c'était un petit clin d'œil. Nous avons fait des chips soufflées de couane de cochon. Et voilà, ça fait une chips très croustillante, et puis vous avez pu déguster ça, effectivement, un peu guacamole lors de l'apéritif.
Oui, alors, c'est très léger. Curieusement, oui. On n'a pas cette impression de gras.
Mais il n'y en a pas, parce qu'en fait, la couane est complètement dégraissée. On l'a cuite une douzaine d'heures dans un bon bouillon. Ensuite, on l'a mise à sécher une dizaine d'heures. Et seulement après, elle souffle, effectivement, plongée dans une huile, mais une huile neutre. Donc, en fait, c'est vraiment pas très gras.
Mais c'est amusant. Qui a créé ça ?
Alors, ça, je dois vous avouer que ça n'est pas un produit qui a été inventé par les charcutiers, mais plutôt par une cuisine asiatique.
Ah oui.
Parce que ça, c'est vrai que les Asiatiques sont très forts aussi pour cuisiner le porc.
Oui.
Et notamment faire des rôtis de porc avec une couane très croustillante.
Ah bah oui, non, mais fait, ça bien sûr, tout le monde connaît.
Inspiré, ouais,
ouais. Ah, vous vous êtes inspiré de ça et vous... Ah, c'est très intéressant.
Ah oui, on s'est vraiment inspiré de cette technique
ouais.
De rôti confit séché. Et ensuite, en général, vous savez, ils versent de l'huile brûlante sur le rôti et d'un seul coup, en fait, la couane souffle.
Bien sûr.
Et en fait, on a utilisé cette même technique.
Excellent. Et après, donc, nous avons eu des saucisses de...
Alors, on a fait une saucisse spéciale pour vous hier soir, qui était une saucisse à base de cochon fermier du Perche, mais ça, c'est mon producteur de
Qu'est-ce
de,
qu'elle est bonne
porc.
Ah, c'était trop bon.
Ouais, donc hier soir, on a fait une saucisse à base de... pardonnez-moi, du thym citron. Mm-hmm. On a mis également du piment. On avait également... j'ai oublié. La marjolaine, voilà.
Ouais.
Ma femme n'est pas très loin et toujours...
Voilà, toujours là pour vous aider.
La marjolaine, ouais. et un petit peu de... J'ai rajouté, pour apporter un peu de fraîcheur, de graines de fenouil également.
Alors, chers auditeurs, je vous invite vivement à découvrir ces deux établissements. Les prix sont très raisonnables, surtout pour un lieu aussi bien placé. Donc, Maison Baroche et donc restaurant Baroche.
Brasserie Baroche,
pardon. L'adresse, on redonne l'adresse ? Les adresses avant de se quitter ?
Oui. Pour la maison, c'est 18 rue Cadet, c'est dans la rue piétonne de la rue Cadet, dans le 9e arrondissement. Et pour la brasserie, c'est au 101 rue La Boétie, c'est l'angle Ponthieu-Boétie, Paris 8e, Champs-Élysées.
Merci beaucoup, David Baroche. Merci également à votre épouse et au plaisir de vous retrouver pour un moment gourmand ensemble.
Mais j'en suis sûr, à très bientôt.
À très bientôt. Chers auditeurs, merci beaucoup. Merci également à la technique. Et nous nous quittons évidemment en musique. À très bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de la vie française animé par Laurent Poulcier Duménil, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 16 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.